que tu as tout accompli. L'œuvre est parfaite. Nous n'avons qu'à te louer et t'adorer pour la victoire déjà acquise. Seigneur, nous n'avons rien à remporter. Tu as déjà remporté la victoire pour nous. Et tu ne nous demandes qu'une chose, de confesser cette victoire acquise une fois pour toutes à la croix du calvaire. Oh, nous te louons, Seigneur. Fais tomber encore les écailles de nos yeux pour que nous puissions encore voir la croix telle que tu la vois, te voir telle que tu es, et nous voir aussi telle que nous sommes à tes yeux. Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous enseigne ta parole, et que tu diriges encore cette réunion comme tu le voudras. Sauve, guéris et délivre. Pour la gloire de ton nom, merci Seigneur, pour tout ce que tu vas faire dans ta compassion divine. Amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et j'aimerais donner quelques paroles d'exhortation sur comment avoir des fleuves d'eau vive qui coulent de notre sein. Comment? J'aimerais vous donner trois pensées qui sont un peu comme trois fleuves. Si nous mettons en pratique ces simples pensées de l'Évangile, ce sont comme trois fleuves qui couleront de notre sein et qui abreuveront tous ceux que nous contacterons. Qui est-ce qui veut avoir des fleuves d'eau vive couler de son sein? Je crois que c'est notre désir à tous. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La condition essentielle est tout simplement la foi. Celui qui croit en sa parole et en ses promesses. Amen. Nous allons donc voir ces trois fleuves d'eau vive que Dieu veut faire couler au travers de nous pour bénir ceux qui nous entourent. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1er, lisons les 8 premiers versets, si vous le voulez bien. Acte 1, les 8 premiers versets. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Et soulignez bien cette pensée. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Soulignez cette pensée, nous allons y revenir. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. » Et un deuxième passage, Luc chapitre 24, les derniers versets, 50, 51, 52 et 53, Luc 24, il les conduisit vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une... Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Avec une grande joie. Soulignez bien encore, une grande joie. Pour vous montrer dans quel esprit les apôtres et les disciples se trouvaient. Et ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Louant et bénissant Dieu. Voilà donc trois pensées importantes. Si nous voulons expérimenter cette vie de résurrection de plus en plus, il y a des principes bibliques. Nos larmes, nos prières, nos jeûnes ne feront rien si nous ne connaissons pas certaines vérités ou certains principes bibliques. Car Dieu a décidé d'agir en respectant sa parole. Nous ne pouvons pas expérimenter la puissance de Dieu dans notre vie si nous ne respectons pas sa parole, n'est-ce pas vrai? Nous ne pouvons pas dire, oh mon Dieu, je veux que des fleuves d'eau vive coulent de mon sein, je le veux Seigneur, mais ta parole, j'obéirai quand j'en aurai envie. Ta parole ne m'intéresse pas parce que dans ta parole il y a tant de choses qu'il faut que je change si je dois obéir. Mais Seigneur, tu sais, je t'aime quand même. Combien de chrétiens disent, mais j'aime le Seigneur, mais ils n'obéissent jamais. Sa parole, c'est comme si c'était rien du tout. Nous ne pouvons pas dire, j'aime le Seigneur. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Donne-moi ta puissance, donne-moi des fleuves d'eau vive. Si nous négligeons sa parole et certains principes bibliques très importants. Vous savez, la puissance de Dieu est à notre disposition. Nous n'avons pas à monter au ciel pour décrocher quoi que ce soit. Le ciel est déjà descendu au milieu de nous. Alléluia. Le ciel est déjà là. Et pour que ce ciel se manifeste, il y a donc certaines vérités. Et j'aimerais vous donner trois vérités qui sont comme trois principes bibliques que si nous mettons en pratique, immanquablement, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Le plus petit d'entre nous ici, le plus faible d'entre nous ici, celui qui bafouille, celui qui bégaye, cela n'a aucune importance aux yeux de Dieu. Le plus petit d'entre nous peut être utilisé par Dieu s'il met tout simplement en pratique ces vérités bibliques. Première pensée, premier fleuve d'eau vive, c'est Jésus qui l'a mise en pratique. Jésus ne nous demande jamais rien qu'il a d'abord mis en pratique lui-même, n'est-ce pas vrai? Ce premier fleuve, nous le voyons là, acte 1, verset 3. Nous allons y revenir. Nous y revenons. Après qu'il eut souffert, il leur apparut. Nous relisons cette pensée. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Voyez-vous, derrière la puissance de résurrection de Jésus, il y a les souffrances. Il y a la croix de Jésus. Autrement dit, il ne peut y avoir de puissance et de vie, de résurrection, sans la croix de Jésus. Alors le premier fleuve est celui-ci, le premier principe, c'est un esprit de sacrifice. Le premier fleuve d'eau vive que Dieu veut manifester dans notre vie et que Jésus a manifesté dans sa vie, c'est l'esprit de sacrifice. Pour Jésus, il n'y aurait eu de résurrection sans ses souffrances. Vous êtes d'accord avec moi? Après qu'il eut souffert. Donc, derrière cette gloire de la résurrection, derrière cette puissance extraordinaire qui a roulé la pierre, qui a sorti Jésus du tombeau, qui a détruit les puissances du malin, derrière cette puissance, cette énergie surnaturelle, extraordinaire, il y a la réalité de la croix. Et cette réalité de la croix, c'est l'esprit de sacrifice. C'est parce que Jésus s'est donné pour nous, c'est parce qu'il a donné sa vie jusqu'à mourir pour nous, que maintenant, nous pouvons avoir la vie et la vie en abondance. Donc, la première pensée importante est celle-ci. Sans esprit de sacrifice, il n'y a pas d'esprit de vie et de vie abondante. C'est impossible. Et cela va à l'encontre du raisonnement humain, à l'encontre des intérêts de l'homme. L'homme est foncièrement, par nature, égoïste. Il ne pense qu'à lui-même. Jésus était tout le contraire. Il ne pensait qu'à glorifier son Père et il ne pensait qu'à nous. Alléluia! Lorsqu'il était sur cette croix, la parole de Dieu nous dit qu'il a souffert l'ignominie de la croix. Il a été jusqu'au bout, mais en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. En vue de la joie qui lui était réservée, en vue des fruits qui allaient découler de la croix, il a accepté la souffrance. Et qui sont les fruits de la croix? C'est vous et c'est moi. Amen. Voyez-vous, dans tout ce que Jésus faisait, il y avait cet esprit de sacrifice. Jésus lui-même l'a dit, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, non pour être servi, voilà, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voilà la pensée qui motivait constamment le Seigneur. C'était un esprit de sacrifice qui voulait dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans ce sacrifice, il y a la première pensée importante que je voudrais souligner, c'est le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Et cela, nous devons le comprendre. À cela, nous ne pouvons rien ajouter. Nous ne pouvons rien ajouter au sacrifice de la croix. Combien de fois nous entendons dans certains milieux chrétiens, « Oh, cette personne a tant souffert. Si elle, à cause de ses souffrances, elle ne mérite pas le ciel, alors je me demande qui ira au ciel. » Est-ce que vous n'avez pas entendu cela? Peut-être que certains d'entre vous, vous y croyez encore. Et vous pensez que peut-être à cause de vos souffrances, vos douleurs, vos maladies, vous irez un jour au ciel. Mes amis, cela est une vérité qui ne se trouve pas dans les Écritures. Nous devons donc avoir une notion claire du sacrifice de Jésus-Christ. Lui seul a porté nos péchés. Lui seul a payé notre dette. Et vous ne pouvez rien faire pour vous sauver vous-même. Cette vérité qui est si importante est encore inconnue dans beaucoup de vies, dans notre génération soi-disant chrétienne. Interrogez beaucoup de gens religieux et vous leur demandez « Comment espérez-vous être sauvé ?» J'espère qu'avec tous les sacrifices que je fais, j'espère qu'avec les bonnes œuvres que je fais, j'espère avec tout le bien que j'ai fait, j'espère que je serai sauvé. Mes chers amis, environ 9 personnes sur 10 vous diront cela. Vous serez étonnés, 9 personnes sur 10. Ils basent leur salut sur leur propre sacrifice à eux, sur leur souffrance à eux, sur leur mérite à eux. Et en disant cela, nous ignorons la première vérité du salut, qui est que l'homme ne peut se sauver lui-même. Amen. Ta religion ne peut te sauver, quelle qu'elle soit. Qu'elle soit la plus belle, la plus grande, ta religion ne peut te sauver. Tes œuvres ne peuvent te sauver. Tes larmes ne peuvent te sauver. Rien ne peut te sauver. Jésus a dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Un homme perdu ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin d'un sauveur. Amen. Et voilà pourquoi beaucoup de gens religieux n'expérimentent pas la puissance de Dieu dans leur vie.
Ils espèrent par leurs œuvres essayer de plaire à Dieu, d'avoir la puissance de Dieu, mais il n'y a rien du tout. Donc la première vérité est celle-ci, concernant le sacrifice de Jésus. Seigneur, c'est par grâce que je suis sauvé. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de moi, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens 2, 8 et 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne dans le ciel, écoutez-moi bien, et ceci est important, c'est la base même de l'évangile. Sans cela, il n'y a pas de puissance. Aucune personne dans le ciel ne pourra se glorifier de ce qu'elle a fait pour Dieu. Personne. Devant Dieu, la Bible dit que toute bouche sera fermée. Personne ne pourra se vanter de quoi que ce soit. Nous n'irons pas au ciel à cause de ce que nous avons fait. Mais nous irons au ciel à cause de ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix du calvaire. Amen. Nous ne pouvons pas être sauvés par nous-mêmes. Cette vérité est vitale. Et des multitudes seront perdues parce qu'ils ne veulent pas écouter cette vérité-là. Ils sont religieux. Ils ont de la religion. Ils prient même. Mais ils sont perdus. Si un homme religieux pouvait être sauvé, c'est bien l'apôtre Paul qui pouvait être sauvé, n'est-ce pas vrai? L'apôtre Paul, c'était un homme religieux, c'était un pharisien, je vous assure. De la religion, il en avait. Et cependant, il avait une religion, mais il ne connaissait pas Jésus. Non seulement il ne connaissait pas Jésus, mais il persécutait Jésus. En s'opposant aux chrétiens, il persécutait Jésus. Non, mes amis, l'apôtre Paul lui-même, qui avait la religion, qui était fidèle à sa religion. Dieu lui a montré que tout cela, toutes ces œuvres de justice qu'il faisait pour Dieu, ne pouvaient plaire à Dieu. Et c'est pourquoi il s'est révélé à lui sur le chemin de Damas. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de m'échapper contre les aiguillons. Et là, Paul est tombé à terre. Qui es-tu, Seigneur? Que veux-tu que je fasse? Et là, ses yeux se sont ouverts. Il a vu que ce ne sont pas ses œuvres, si belles soient-elles, qui pouvaient le sauver, mais c'était Jésus et son sacrifice à la croix. Amen. Oh, mes amis, êtes-vous au clair là-dessus? Pouvez-vous dire sincèrement, seul le sacrifice de Jésus peut me sauver et rien d'autre. Rien d'autre. Et il n'y a rien de tel pour humilier quelqu'un. Voilà pourquoi le salut est aux humbles, à ceux qui reconnaissent qu'ils n'ont rien du tout que le sacrifice de Jésus. Amen. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, agneau de Dieu, je viens. Êtes-vous venu à lui tel que vous êtes? Cessez de vous justifier devant Dieu. Cessez de vous vanter que vous êtes religieux. Votre religion ne vous ouvre pas la porte du ciel. Seul le sang de Jésus nous donne accès dans la présence de Dieu. Combien d'entre vous ici, vous avez peut-être une religion, mais vous sentez qu'il n'y a pas de contact avec Dieu. Quand vous êtes avec les autres, avec des gens, des croyants comme cela, vous vous sentez un peu bien. Mais à peine que vous quittez ce lieu, tout de suite, vous avez l'impression qu'il y a un mur qui vous sépare de Dieu. Vous êtes bien avec les autres, mais lorsque vous quittez, il n'y a plus rien du tout. Vous n'avez pas de communion personnelle avec Dieu. Pourquoi? Parce que vous basez votre justice et votre salut sur vos propres œuvres, sur votre religiosité. Mes amis, j'insiste là-dessus, car c'est là la vérité centrale des Écritures. Amen. C'est pourquoi dans le ciel, à qui est-ce qu'on chante le cantique? À qui est glorifié dans le ciel? Qui est exalté dans le ciel, mes amis? Qui? La parole de Dieu nous dit, à l'agneau qui a été immolé.
soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Les traces, les marques de l'agneau seront sur lui. Et il nous dira, mon enfant, c'est par ces meurtres issues que tu es sauvé. Et si tu entres dans mon ciel, ce n'est que à cause de mes souffrances pour toi. Mon enfant, viens tel que tu es. Repens-toi sincèrement. Tu peux être religieux, mais tu peux être perdu, même religieux. Tu as besoin de faire cette expérience de la conversion, de la nouvelle naissance. Ce n'est pas une nouvelle religion qu'il te faut, c'est une nouvelle vie. Ton esprit a besoin d'être régénéré, ton esprit a besoin d'être purifié. Mais comment? Par tes prières, par tes larmes, jamais. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie de nos péchés. Et tant que tu n'as pas mis toute ta confiance dans le sang de Jésus pour être purifié de tous tes péchés, il y a un mur qui te sépare de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous avez l'impression qu'il y a un mur. C'est le mur de vos péchés. Vos péchés n'ont pas été ôtés. Et rien d'autre que le péché, que le sang de Jésus. Lorsque je me suis approché de Dieu, à l'âge de 20 ans, dans un camp de jeûnes, et que, à la fin de ce camp, je me suis courbé devant lui, et j'ai dit, oh mon Dieu, j'avais une religion pourtant, mes parents étaient religieux, j'étais religieux, j'allais à l'église, je faisais beaucoup de choses, mais là, Dieu m'a parlé, il m'a dit, c'est maintenant que tu dois choisir, ou moi, ou le monde. Et je réalisais que mon cœur était partagé avec Dieu et avec le monde. Et voilà pourquoi je n'étais pas heureux. Voilà pourquoi il n'y avait pas de communion avec Dieu. Il n'y avait pas, j'étais religieux, mais séparé de Dieu. Et là, lorsque Dieu m'a parlé, il m'a dit, maintenant c'est fini, fais tomber ton masque. Plus de masque avec moi. Si tu veux la réalité, si tu veux me toucher, si tu veux me rencontrer, si tu veux la réalité, il faut que tu sois vrai avec toi-même. Enlève ton masque. Et quand Dieu m'a dit, c'est aujourd'hui que tu dois choisir ou moi ou le monde, c'est exactement ce que j'étais, parce que mon cœur était partagé entre les deux. J'étais un hypocrite. Devant les autres, j'étais un gars très bien, religieusement. Je parlais même du Seigneur aux autres, mais mon cœur était souillé. Mon cœur était impur, et je le savais. Et Dieu le savait aussi, et cela m'a touché. Et j'ai dit, Seigneur, oui, je ne peux plus rien cacher. Je me repens devant toi, sincèrement. Mon péché est là. J'avais honte tout à coup de mon péché. Et j'ai dit, Seigneur, Seigneur, je veux abandonner ce qui te déplaît. Et dans mon cœur, je voulais dire, je disais, Seigneur, je veux changer. Je veux devenir un vrai chrétien. Je ne veux plus qu'il y ait cette séparation entre toi et moi. Je ne veux plus que mon cœur soit partagé. Et j'ai dit, Seigneur, je me repens sincèrement. Pardonne-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Et vous savez, je n'ai même pas fait une prière audible, mais c'était dans mon cœur. Vous savez, Dieu entend même les prières qui sortent du cœur, mais la prière sincère. Certains crient à Dieu, certains crient et Dieu ne les entend pas. Les autres ne disent rien du tout et Dieu les entend. Et là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'en ai assez de vivre comme cela. Pardonne-moi et purifie-moi. J'avais un besoin de purification. Mes yeux étaient souillés, mes pensées étaient souillées, j'étais beaucoup souillé dans mes pensées. Mes pensées étaient souillées. J'ai dit, Seigneur, purifie, je veux changer, j'ai besoin de toi. Et à l'instant où j'ai dit, Seigneur, pardonne, je veux changer ma vie, purifie-moi, viens dans mon cœur. Vous savez ce que j'ai senti? Instantanément, j'ai senti comme un poids qui quittait mes épaules. J'ai senti un poids qui s'élevait. Ouf. Ah, mais c'est pas possible. Je me suis dit, mais comment ça se fait? J'avais donc un poids sur moi. Jamais j'avais réalisé ce poids-là. Et je me suis dit, mais Seigneur, mais... j'ai réalisé deux choses d'un seul coup. J'ai réalisé que Dieu n'était pas loin. Cette simple prière, toute simple, mais du fond du cœur, m'a montré une chose, que Dieu n'était pas loin. Qu'il était là. Amen. Dieu est près de toi, Dieu est près de nous, mais il faut que la prière soit sincère. Amen. Mes amis, ce n'est pas la formule de nos prières, ce n'est pas crier dans nos prières qui fait quelque chose, ce n'est pas gémir, ce n'est pas essayer de supplier Dieu qui fait quelque chose, c'est la prière sincère. Une prière droite du fond du cœur. Nous pouvons tromper les autres, mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous tournons en rond. Nous prions, mais nous voulons que les autres prient pour vous. Et beaucoup même ont prié pour vous. Et vous êtes personne. Il n'y a pas de changement. La réponse à ton problème, la réponse à ton agonie, à tes souffrances, est dans une prière sincère devant Dieu. Amen. Veux-tu vraiment connaître Dieu? Veux-tu vraiment être pardonné? Veux-tu vraiment changer de vie? Veux-tu vraiment connaître l'amour de Dieu? Veux-tu connaître ce pardon véritable? Est-ce que tu le veux vraiment? Ou est-ce que tu joues à la personne religieuse? Est-ce que tu le veux vraiment? Beaucoup d'entre nous, avant de faire quoi que ce soit, nous devons résoudre ce problème-là. Amen. Nous devons répondre à cette question. Et là, j'ai vu qu'à la prière sincère, Dieu était là. Amen. Alléluia. Et si tu pries sincèrement, là où tu es, même là où tu es, il n'y a pas besoin d'attendre l'imposition des mains. Parce que moi, j'étais c'était sous une tente, c'était au fond de la tente là-bas. Le pasteur avait fait un appel pour que les gens se convertissent. Et ce soir-là, personne ne s'était repenti. C'est en 56, je me souviens encore. 56. En 56. Et personne ne s'était repenti. Le lendemain, on devait tous quitter le camp à Grenoble. C'était au four en Roissard, près de Grenoble, là-bas. Et ce soir-là, personne ne s'est converti. Et moi, il y a eu un combat. Et Dieu m'a dit... Je voulais me lever comme les autres. Mais j'avais l'impression qu'il y avait de la colle sur le banc. Je ne pouvais pas me lever. J'ai dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce que je ne peux pas partir? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quand j'étais dans ce combat-là que tout à coup, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, maintenant, c'est le moment de choisir. Et quand j'ai fait cette prière, j'ai su tout de suite que Dieu était près de moi. Et que deuxièmement, premièrement, Dieu est près de celui qui l'invoque sincèrement. Amen. Amen. Sincèrement. Et deuxièmement, jamais je n'aurais cru que mon péché était comme un fardeau sur moi. Jamais. Je me croyais libre, je me croyais heureux. Mais ce jour-là, j'ai réalisé que j'avais un fardeau. Et la Bible appelle bien souvent notre péché comme un fardeau.
Amen.
Et c'était le fardeau de mes péchés qui s'en allait. Mes amis, comment sont-ils partis ces péchés? Est-ce que j'ai jeûné? Est-ce que j'ai fait des pèlerinages à gauche, à droite, partout? Vous pouvez faire 50 pèlerinages. Vous pouvez aller jusqu'au bout du monde. Vous pouvez avoir la bénédiction du plus grand prédicateur. Et ce fardeau ne vous quittera pas. Il n'y en a qu'un qui peut pardonner. C'est l'agneau de Dieu. C'est celui qui a souffert pour toi. Cesse de courir à gauche et à droite. Cesse de courir auprès de l'un ou de l'autre. Cesse de mettre ta confiance dans les religions ou les traditions humaines. Cesse, s'il te plaît. Cesse. Plus vite tu cesseras, plus vite tu trouveras la réalité en Jésus-Christ. Le salut est près de toi. La délivrance est près de toi. Tu n'as pas à courir. La délivrance, c'est Jésus. La guérison, c'est Jésus. Le pardon, c'est Jésus. La paix, c'est Jésus. Alléluia. Et Jésus est là. Et Jésus est là. Oh, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Mais tu dois prier sincèrement, veux-tu prier? Car être chrétien, c'est avoir sa vie changée. Amen. C'est avoir sa vie changée. Je ne veux pas dire que vous devenez parfait du jour au lendemain, mais dans votre cœur, il y a cette détermination de changer. Et Dieu vous aide à changer votre vie. Quelqu'un qui n'a pas changé sa vie, quelqu'un qui est toujours la même personne et qui se dit religieuse et qui se dit sauvée, cette personne n'est pas sauvée. Elle est religieuse, mais elle n'est pas sauvée. Il y a trop de personnes qui se disent chrétiennes, mais leur vie n'est pas changée, ils mentent toujours. Ils veulent toujours commettre encore adultère. Ah, c'est le psychologue qui m'a dit, pour me défouler un peu. Il m'a dit, eh ben, tu peux aller trouver la petite femme d'à côté là-bas. Ça te défoulera. Tu es libre. Tu peux y aller. Tu verras, ça te fera du bien. Mais combien ont avalé ce poison? Et après quelques heures de plaisir, ils se trouvent maintenant dans les tourments, dans les problèmes qui n'en finissent pas. Oh, le sacrifice de Jésus, alléluia. Après qu'il eut souffert, oh gloire à Dieu, Jésus, l'apôtre Pierre le dit, Christ a souffert pour nous. Lui, juste pour nous, injuste, afin de nous amener à Dieu. Amen. Mon ami, Si tu réalises cet après-midi que tu es religieux, mais que tu n'es pas sauvé, et que tu n'as pas l'assurance de ton salut, Jésus veut te donner cette assurance. Amen.
Amen.
Mais tu dois venir au pied de la croix, sincèrement. Sincèrement, avec le désir de changer ta vie. Amen. Ça, c'est à la croix que le fleuve coule. Alléluia. À la croix, il y a une source de vie intarissable. À la croix, lorsque Jésus est mort, un fleuve de vie a commencé à couler. Alléluia. Et ce fleuve est le fleuve de son sang qui purifie tous ceux qui viennent se courber et croire dans son sacrifice. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, l'esprit de sacrifice. Jésus est mort. Alléluia. Et plus nous prêchons Christ crucifié, plus nous verrons la puissance de Dieu dans notre vie.
Amen.
Mes amis, pourquoi beaucoup tombent dans le mysticisme? Pourquoi tombent dans l'occultisme? Pourquoi même certaines personnes religieuses tombent dans la méditation transcendantale, dans le yoga et tout? Même des personnes soi-disant chrétiennes? Pourquoi est-ce qu'elles font cela? Parce qu'elles ne connaissent pas la réalité de Jésus, c'est tout. C'est la preuve. Parce que quelqu'un qui connaît Jésus, il en a fini avec tout cela. Amen. Il a connu la réalité. Il a plus besoin du mensonge et du substitut. Alléluia, alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Oh, mes amis. Voilà pourquoi l'apôtre Paul s'écriait, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Partout où Paul allait, il n'avait qu'un message, la croix de Jésus. Mort pour nos péchés. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. C'est le message qui peut sauver notre génération, notre nation et le monde. Amen. N'oubliez pas, c'est le seul message et personne d'autre. Aucun discours, rien d'autre, aucune philosophie, aucune religion ne peut transformer, ne peut sauver, ne peut libérer. Jésus, sa croix demeure éternellement.
Alléluia.
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 Et c'est à la croix que le feu coule. Parce que là, là, celui qui t'aimait, le Fils de Dieu, a été brisé pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle.
Amen.
La mort de Jésus te sauve de l'enfer éternel. Écoutez-moi bien, ceci est important. La mort de Jésus nous sauve de l'enfer éternel. Aujourd'hui, nous n'entendons plus parler d'enfer, n'est-ce pas vrai? Combien de prédications vous entendez sur l'enfer? Pas beaucoup. Oh, c'est dans la Bible, mais on n'y croit plus. On ne veut pas faire peur aux gens, soi-disant. Mais c'est pas en voulant ne pas faire peur aux gens que les gens seront sauvés. Vous savez, Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Vérifiez les Écritures, vous verrez. Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Pourquoi? Parce qu'il connaît, lui, la réalité de l'enfer. Amen. Il sait que l'enfer existe et il sait que le ciel existe. Il le sait. Et voilà pourquoi il parlait d'enfer. Il y a un lieu à fuir, mes amis. Il y a un lieu à fuir. Il y a une éternité de tourments et de jugements à fuir. Fuyez cette génération, disait l'apôtre Paul. Cette génération perverse, le jugement vient aussi, si nous parlons de l'amour de Dieu, cela ne doit pas nous faire oublier le jugement qui vient aussi sur le monde. Tous les grands prédicateurs qui ont eu une puissance et qui ont fait un travail extraordinaire pour Dieu étaient des hommes qui prêchaient la croix. Amen. Vous ne pouvez pas dépasser la croix. Celui qui va aller plus loin que la croix ne connaît pas Dieu.
Amen.
Il ne connaît pas Dieu. Que Dieu nous aide. Esprit de sacrifice. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Amen. C'est la croix qui nous donne la vie. Amen. La croix de Jésus n'est pas quelque chose qui nous rend dépressif, c'est quelque chose qui nous délivre de la dépression.
Amen.
Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La croix de Jésus n'est pas comme les croix de ce monde. La croix de Jésus libère de la dépression, libère de la tristesse, libère de nos chaînes, libère de Satan. La croix de Jésus libère.
Alléluia.
Les paroles de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh, gloire à Dieu. Prêchons la croix. Prêchons son sacrifice et vous verrez votre ministère béni. Vous verrez votre vie bénie. Des fleuves d'eau vie couleront de votre sein. Vous ne pouvez pas dépasser la croix de Jésus. Mais avant de la prêcher aux autres, vous devez savoir ce que vous dites. Vous devez dire, moi, j'ai connu. Je sais ce que la croix signifie. La croix n'est pas seulement porter une vie de croix ici. La croix n'est pas seulement porter une croix à la maison. La croix n'est pas seulement se courber devant la croix, faire des prières devant la croix. Non, mes amis,
La croix de Jésus est autre chose.
Alléluia, esprit de sacrifice. Gloire au Seigneur. Et une fois que nous avons expérimenté la croix de Jésus, le pardon de Jésus, l'amour de Jésus, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, alors ensuite notre vie n'aura qu'un désir, qu'un but, vivre comme le Seigneur. Amen. Et comme lui, nous dirons, celui qui voudra sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi là, la trouvera. Amen. Alléluia. Une fois qu'on est chrétien, alors on accepte de renoncer à soi-même, à nos intérêts personnels, et on vit une vie qui est consacrée à Dieu et aux autres. Amen. Alléluia. En pensant aux autres, Dieu pense à nous aussi. Mais cela vient après la réalité de la croix de Jésus, du salut de Jésus. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous ne pouvons pas avoir compris la croix de Jésus et vivre ensuite une vie sans qui ne renonce pas à soi-même. Si nous vivons encore pour nous-mêmes et nous disons que Jésus est notre sauveur, alors nous n'avons pas encore compris ce qu'est la croix. J'ai été crucifié avec Christ, disait l'apôtre. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia! Oh, gloire au Seigneur! Voyez-vous, ce n'est plus nous après. Ce n'est plus nous. Non seulement Jésus a porté nos péchés sur la croix, mais il a porté notre vieil homme, notre vieille nature, a été crucifié avec lui, si bien que le vieil homme, la vieille nature, notre péché a été crucifié, et c'est une vie nouvelle qui commence. Oh, alléluia! Une vie nouvelle qui est vécue pour Dieu et pour les autres. Gloire au Seigneur. Le veux-tu? Peux-tu vivre cela? Es-tu racheté par le sang de Jésus? As-tu l'assurance que tes péchés sont lavés par le sang de Jésus? Un deuxième esprit, un deuxième fleuve qui peut couler de notre sein et bénir les autres. Nous l'avons vu dans l'évangile selon Luc. Il est dit qu'après l'avoir adoré, il retournera à Jérusalem avec une grande joie. Voilà le deuxième fleuve de vie. C'est un esprit de joie. Notre frère en a parlé ce matin. Je me suis dit, ça y est, il commence à prendre mon message déjà. Alléluia. Il m'en a laissé un petit peu quand même. Mais il retournait avec une grande joie. Et là, il y a une vérité extraordinaire. Vous voyez, quand on découvre la croix de Jésus, immanquablement, il y a une grande joie. C'est une joie céleste. Ce n'est pas une joie qui dépend des circonstances, des plaisirs de ce monde. Ce n'est pas une joie qui dépend des sentiments. Mais c'est une joie qui vient de Dieu et de Dieu seul. Amen. La Bible dit que la joie est un fruit de l'esprit. Que Jésus était oint d'une huile de joie. Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert là. Et Jésus a dit à ses disciples avant de partir, « Je vous donne ma joie. » Je vous laisse ma joie, je vous donne ma joie. Donc cette joie-là, qui est comme un fleuve, c'est une joie qui vient du Seigneur. C'est la joie qui vient d'en haut. C'est la joie qui vient de notre communion avec. Amen. Et cette joie-là, elle nous tient même dans la souffrance. Avez-vous remarqué les premiers apôtres, quand ils étaient persécutés, on les a arrêtés. Ils ont été battus, flagellés. On les a mis en prison. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les actes? Il est dit qu'ils avaient été tellement touchés qu'ils se considéraient honorés d'avoir subi des outrages à cause du nom de Jésus. Ils étaient heureux d'avoir souffert à cause de Jésus. Voyez-vous, c'est une joie qui tient même dans la souffrance. C'est une joie qui n'est pas influencée par la souffrance. Au contraire, c'est une joie qui est purifiée par la souffrance, dans la souffrance. Amen. Amen. Voilà pourquoi les premiers chrétiens, on pouvait en faire ce qu'on voulait, mais on ne pouvait jamais leur enlever cette joie-là. Amen. Et Jésus a dit, nul ne vous ravira cette joie. Alléluia. Pour beaucoup d'entre nous, nous perdons notre joie toutes les 5 minutes. Quelqu'un nous dit un mot de travail, oh, il n'y a plus de joie du tout. Quelqu'un nous envoie promener là au travail ou autre, il n'y a plus de joie du tout. On nous fait un mauvais coup, il n'y a plus de joie du tout. Quelqu'un nous abandonne, un être bien-aimé qui nous abandonne, plus de joie du tout. Tout le monde nous ravit notre joie. Et on court après des joies comme cela, éphémères. On court et on pense qu'on a saisi une joie. Et à la moindre difficulté, on nous ravit cette joie. N'est-ce pas l'expérience de beaucoup ici? On court après une joie. On pense l'avoir trouvée. Et à la moindre difficulté,
il n'y a plus rien du tout. Mais Jésus a dit, nul ne vous ravira votre joie. Alléluia. Cette joie, elle vient de moi. Et moi, je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Et la vraie joie, c'est cette joie qui découle de notre communion avec Dieu. Celui qui est en communion avec Dieu est un homme joyeux. Je ne veux pas dire qu'il faut qu'on ait le sourire du matin au soir, mais cette joie, c'est comme un rayonnement sur la personne. C'est une joie intérieure profonde. La joie est comme la satisfaction que Dieu donne à quelqu'un. Amen. Quelqu'un qui est joyeux dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est pleinement satisfait par le Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et c'est ce que Dieu fait. Amen. Et c'est une joie que personne ne peut nous ravir. Gloire à son nom. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez. Amen. Gloire au Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'apôtre était où quand il disait cela? Il était en prison. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il était en prison. Il n'était pas dans une convention comme cela. C'est facile de dire réjouissez-vous ici, n'est-ce pas? Quand tout le monde se réjouit. Mais lui, il avait appris à se réjouir dans la prison. Quand tout le monde était contre lui. Quand le soldat romain qui était là, jour et nuit, près de lui, et qui se moquait de lui, et qui le méprisait, et qui criait aux autres, et qui disait aux autres, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alléluia. Et aux Romains, aux centaines, ils lui disaient, mon ami, tu penses me ravir ma joie? Mais ma joie est dans le Seigneur. Le Seigneur est là. Alléluia. Tu ne peux pas me ravir. Cette joie est là. Et tu ne peux pas me ravir cette joie. Fais tout ce que tu veux. Alléluia. Moi, je t'aime et je te bénis. Mais cette joie qui est là, tu ne peux pas la ravir. Alléluia.
Amen.
Et pour terminer, un troisième fleuve d'eau vive. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Je termine par cela. Le troisième fleuve de vie, c'est un esprit missionnaire. Et vous serez mes témoins. Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour apporter aux autres la bénédiction divine. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Et le mot témoin, vous savez ce qu'il veut dire dans le texte grec ici? Le mot témoin veut dire martyr. Autrement dit, les premiers chrétiens étaient prêts à mourir pour le Seigneur. Amen. Ils étaient prêts à dire, mes amis, faites tout ce que vous voulez. Mais nous, notre foi chrétienne, est faite de telle sorte que même si vous nous faites mourir, nous sommes prêts à mourir pour le Seigneur. Quand le monde verra de tels chrétiens qui sont prêts à mourir pour le Seigneur, alors mes amis, ils commenceront à réfléchir. Ils se diront, ça, c'est de l'or en barre. Amen. Ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est le vrai chrétien. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Témoins de qui? Témoins d'une religion? Témoins d'une église? Avez-vous remarqué ici, est-ce qu'on parle d'une église? Est-ce qu'on parle d'une dénomination? Jamais. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, il vous serez mes témoins. Voyez-vous, quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, il est témoin de Jésus. Si nous parlons d'une église, d'une autre religion, de qui que ce soit, nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Seul celui qui est rempli du Saint-Esprit parle de Jésus. Amen. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Mes témoins. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes remplis de Jésus. Alléluia. Et nous réalisons la vanité des autres choses. L'inutilité des autres choses, plus rien ne compte. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis de Jésus. Gloire à Dieu. Et nous sommes prêts à donner notre vie pour le Maître. Voilà, mes amis, c'est pourquoi dans l'Apocalypse, il est dit, Apocalypse 12:11, ils l'ont vaincu, le diable, à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Avez-vous remarqué cela? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Voilà le chrétien que personne ne peut arrêter. Quelqu'un qui dit, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Faites de moi ce que vous voulez. Maintenant, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Un tel chrétien, personne ne l'arrêtera. Amen. Voilà jusqu'où nous devons aller. Bien sûr, nous ne passerons pas par le martyr, certainement. Nous ne savons pas quand même aussi ce qui peut nous arriver dans le futur. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous prenions la décision d'être à lui pour la vie ou pour la mort, d'être entièrement à lui. Et si nous sommes dans cet esprit-là, mes amis, des fleuves d'eau vive couleront de notre sein. Nous abreuverons ceux qui nous entourent. Ils viendront boire à ce fleuve d'amour qui coule de notre sein. Ils se désaltéreront et ils verront que parce que nous aimons Jésus de tout notre cœur, ils l'aimeront aussi. Amen. Vous ne pouvez pas faire aimer les autres Jésus si vous ne l'aimez pas vous-même. Alléluia. Et vous serez étonnés que ce ne sont pas tellement nos paroles qui convainquent les autres, mais c'est notre façon de vivre. Amen. Cet amour, cette consécration, cet amour pour Jésus, ils seront touchés. Et Dieu agira en nous et au travers de nous. Amen. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire au Seigneur. Nous ne pouvons pas garder pour nous ce que Dieu nous a donné. Gloire au Seigneur. Nous sommes obligés de dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Alléluia. Nous allons maintenant nous courber dans la prière. Quelques instants, mes chers amis. Avant de prier pour les malades, je crois qu'il y a une prière beaucoup plus importante à faire. C'est la prière de celui qui veut sincèrement se repentir devant Dieu et devenir une nouvelle créature, un enfant de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante. Dieu t'aime et il veut que tu sois en règle avec lui. Es-tu en règle avec Dieu? Es-tu sauvé? Est-ce que le sang de Jésus a pardonné tes péchés? Je ne dis pas à quelle religion tu appartiens, cela n'a aucune importance. Es-tu sauvé? As-tu l'assurance du pardon de tes péchés? Es-tu né de nouveau? Est-ce que tu connais Dieu personnellement? Est-ce que Jésus est ton sauveur? Est-ce que tu peux dire, si je meurs maintenant, je serai sauvé? Est-ce que tu peux le dire? Jésus t'aime. Et il veut, ce soir, te donner cette assurance, l'assurance du pardon et de la vie éternelle. Amen. Et s'il y en a qui veulent prendre cette décision, nous allons prendre un moment pour vous. S'il y en a qui veulent ce soir se repentir sincèrement de leurs péchés et accepter Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel, et qui veulent dire à partir de maintenant, je veux vivre pour lui et pour lui seul, et je veux être son témoin, s'il y a quelqu'un qui est comme cela, levez votre main, nous allons prier pour vous. Là où vous êtes, oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. S'il y en a d'autres, vous pouvez lever votre main. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que ce soit une prière sincère, mes amis. Alléluia, Dieu vous aime et il veut que vous fassiez cette expérience du salut, du pardon de vos péchés. Je demanderai à tous ces amis maintenant de venir s'approcher ici devant. Alléluia, tel que vous êtes, venez à lui. Vous savez, cette démarche que vous faites là, elle ne se fait qu'une fois dans sa vie. C'est pourquoi elle doit se faire sincèrement. Alléluia. Et elle ne se fait qu'une fois. Quand on est de nouveau devant Dieu, on ne naît qu'une fois. Mais il faut le faire sincèrement, profondément, tel que tu es. Viens à Jésus, il t'aime, il veut te pardonner, il veut te sauver, il veut te donner la vie éternelle. Est-ce qu'il y en a d'autres? Que tous les chrétiens prient maintenant, que tous les yeux soient fermés. Prions s'il vous plaît.
Bravo mes enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Merci. Vous êtes bien mignons, vous savez.